Ambiance CQFD, Natacha Triou.
On poursuit notre feuilleton sur les nouvelles explorations. Aujourd'hui, pour notre deuxième épisode, on plonge pour un voyage subaquatique. Comment explorer les grands fonds marins? Les océans profonds occupent 66% de la surface de notre planète. Pourtant, seuls 0,001% de ces fonds ont été explorés visuellement. Ces dernières décennies, on découvre que loin d'être des déserts arides, les abysses et leurs sources hydrothermales sont des oasis de vie. Comment les scientifiques partent-ils à la découverte de l'écologie benthique, la faune et la flore qui peuplent les mers? Comment visiter les abysses alors qu'il est paradoxalement plus facile de se rendre dans l'espace que dans la fosse des Mariannes, le point le plus profond de notre planète? Nouvelles explorations, rencontres en mer inconnue. Et bonjour Laurent Balesta.
Bonjour.
Vous êtes en duplex de Montpellier, vous êtes biologiste, marin, plongeur et photographe. Et nous devrions être bientôt rejoints, je l'espère, par José Sarrazin, chercheuse en écologie benthique, spécialisée dans les grands fonds, qui est responsable du laboratoire Environnement Profond de l'Ifremer. Alors pour sa défense, elle est présentement en haute mer, à bord de la Talente. Donc j'espère que nous arriverons à la joindre. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour inaugurer cette quatrième et nouvelle saison de CQFD. Et merci à vous qui nous écoutez d'être toujours là au rendez-vous, en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur notre fil podcast sur l'appli Radio France et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Chaque jour, on publie pour vous une sélection d'articles, des liens, des sources pour compléter votre écoute. C'est à retrouver à Science CQFD. Alors, quels sont les différents écosystèmes marins qu'il est possible d'explorer? Quels sont les dangers et les joies de ce nouveau champ d'investigation? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, on plonge à bord du télescaf avec Michel Péricard en 1967. C'est notre archive du jour.
Le télescaf, c'est la dernière invention des hommes pour permettre à n'importe qui, à vous, à moi, d'explorer sans problème les fonds sous-marins. Ces fonds sous-marins qui, on le rappelait au début de cette émission, forment 70% de notre monde. Aujourd'hui, premier passager du bathyscaphe, je peux sans problème, en costume de ville, accéder à mon tour aux étranges découvertes de ce monde nouveau qui m'entoure. Je peux regarder avec avidité cette vie étrange et intense qui agite la mer. Car la mer n'est pas vide, la mer n'est pas morte. Elle est habitée d'une vie intense et complètement nouvelle pour ceux qui, comme moi, y descendent pour la première fois. Et si, pendant quelques instants, pour vous, s'établit une curieuse collaboration entre ces poissons et ces poulpes et ces hommes qui nous représentent à l'extérieur de la cabine, sachez qu'en temps normal, ces êtres viennent tout aussi bien regarder tout autour de nous. Car peut-être, après tout, me suis-je trompé en imaginant que c'était pour découvrir les fonds sous-marins que j'allais m'enfoncer à une dizaine de mètres au fond de la mer. Peut-être est-ce tout le contraire qui se produit. Peut-être est-ce la vie sous-marine qui vient nous observer, qui vient m'observer, moi, pauvre homme, perdu dans mon aérium. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire qui s'ajoute aux légendes nombreuses de la mer. Je la confie aux sirènes et aux ondines pour qu'elles aillent la raconter aux quatre coins du monde.
Voilà un extrait de l'émission Notre Monde, diffusée sur la ORTF en 1967. Michel Péricard évoque une vie intense autour de moi. Alors vous, Laurent Balesta, à quoi ressemblent ces écosystèmes qui peuplent ces fonds marins et que vous côtoyez presque quotidiennement?
Déjà, il y a une nuance à faire, peut-être. J'ai entendu l'introduction à votre émission. On parle des grandes profondeurs de l'océan, des abysses. Moi, je reste un plongeur autonome. Je vais physiquement sous l'eau. Donc, je subis la pression. Donc, en fait, je suis très limité. Donc, à l'échelle humaine, je vais extrêmement profond, c'est vrai, et j'assume cette prétention. Mais à l'échelle des océans, je me promène dans le pédiluve, moi. Hein. Je suis dans les, mes profondeurs maximum, ça a été 200 mètres. C'est pas les 10 000 mètres de la fosse des Mariannes dont vous avez parlé. Donc, il faut déjà quand même faire cette petite correction. Mais pour autant, de toute façon, que l'on soit à 30 mètres, à 100 mètres, à 200 mètres ou à 10 000 mètres, ça reste des contrées qui sont hors de notre vue. Vous voyez, l'écrivain alpiniste, je change pas de sujet, disait l'alpiniste, c'est celui qui un jour amène son corps là où ses yeux se sont portés. Oui, on contemple la montagne depuis la vallée, puis un jour on y va, parce qu'on la voit, qu'elle nous attire. On peut pas donner ça comme définition pour un plongeur. Au mieux, le plongeur, au contraire, il amène ses yeux là où seule son imagination a pu le porter d'abord. Et ça change tout dans la perception de ce monde sous-marin. Finalement, que l'on soit à 50 mètres ou à 10 000 mètres, on est quand même dans des contrées qui nous sont globalement inconnues. Il y a le chiffre classique hein, des 70% qui couvrent la planète, les océans. Même en 67, il donne cette comparaison-là. Mais en vérité, c'est bien plus que ça. Parce que qu'est-ce qui compte ? C'est pas tant la surface. On vit pas dans des surfaces, on vit dans des volumes. Et si l'on regarde le volume de la biosphère terrestre et le volume de la biosphère marine, eh bien là, la planète Terre, c'est 99% de biosphère, c'est-à-dire de volume dans lesquels la vie est possible. Eh bien, c'est 99% l'océan. Donc ça, c'est quelque chose aussi à avoir en tête, ce ratio qui est colossal entre ce que représente le support de la vie dans les océans et le support de la vie sur Terre. C'est presque dérisoire, cette vie terrestre. C'est presque... c'est le post-scriptum, vous voyez. C'est le petit truc en plus, la vie terrestre.
Mais c'est vrai que statistiquement, nous autres terriens, nous sommes plutôt en effet assez réduits en nombre, parce qu'on peut en effet soulever ce point-là. Mais vous évoquez ce pédiluve de 200 mètres de fond. Mais vous, quand vous posez vos yeux sur ces écosystèmes-là, à quoi ça ressemble? Et qu'est-ce que vous capturez justement avec votre appareil photo?
Évidemment, c'est merveilleux. Et puis quand je dis pédiluve, c'est la fausse modestie. J'ai bien la sensation de me sentir un aventurier, un explorateur, dès qu'avec mon équipe, on part rencontrer, arpenter des écosystèmes plutôt profonds. Et le plus étonnant, que ce soit au fin fond de la Papouasie, dans l'archipel des Tuamotu en Polynésie, que ce soit sous la banquise en Antarctique, ou que ce soit dans les profondeurs du Cap Corse. Hein. En fait, encore une fois, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour être complètement ailleurs, au fond des océans. Il suffit de passer quelques dizaines de mètres, allez, mettons une centaine de mètres, et on est sur des territoires qui, globalement, n'ont pas été observés, n'ont jamais été arpentés par des yeux humains. Alors évidemment, on est vite récompensé. En fait, la plongée est un petit peu difficile, est un petit peu compliquée, elle est engagée. Physiquement, c'est pas anodin d'aller à ces profondeurs-là. Mais du coup, la récompense est presque immédiate. Parce que ça a été tellement peu observé. Au final, c'est facile dans mon cas, ce que j'adore le plus, c'est photographier des animaux pour la première fois. Ou des lieux d'ailleurs, encore plus. Des contrées, une arche sous-marine, Vallon Pont d'Arc de l'Ardèche. Combien il en existe sous l'eau qui n'ont jamais été photographiés? Des milliers. Voilà, c'est ça qui est fascinant et qui est pas ingrat, en fait. La plongée technique à grande profondeur, elle est ingrate. On a très peu de temps au fond pour des heures de décompression à la remontée, donc ça, c'est dur. Mais on est récompensé parce que je ne fais pas de mission sans revenir avec le portrait d'une créature qui n'avait pas été photographiée jusque-là, avec un décor sous-marin qu'on n'avait jamais vu. Voilà, ça c'est quand même merveilleux au XXIe siècle de pouvoir faire ça encore.
Et comme
alors
vous dites,
oui, il faut faire quelques efforts, il faut accepter des risques, de la préparation, des entraînements, des apprentissages techniques, parce que encore une fois, on y va physiquement. Hein. On n'est pas en sous-marin, on n'est pas comme le monsieur de 67 enfermé dans quelque chose. on y va physiquement. Et, c'est, et ça me paraît nécessaire, cette démarche physique.
Pourquoi ça vous paraît nécessaire. Important et, ouais. et nécessaire, justement, de s'immerger pour étudier et comprendre ces environnements-là?
Oui. Oui, parce que, en fait, alors évidemment, on m'accusera de prier pour ma paroisse, hein, mais quand on est avec un sous-marin et quand on est en plongée, c'est à partir du moment où on peut faire les deux. Quand on est à 10 000 mètres de fond, bon, on ne peut pas y aller en plongée, donc l'affaire est entendue, on ne peut y aller qu'avec des robots ou des sous-marins. Mais quand on est à des profondeurs où physiquement on peut aller jusqu'à quasiment 300 mètres, peut-être même un peu plus, qui sait qui... en quelque sorte, il n'y a pas photo. La comparaison à prendre, c'est celle aussi d'une montagne. Qui connaît la montagne? L'alpiniste qui l'arpente chaussures aux pieds ou celui qui est passé au-dessus avec une montgolfière ou un avion? Vous voyez? Bah, c'est presque ça le parallèle. J'ai eu la chance de faire quelques plongées en sous-marin dans ma carrière. Très peu, hein, très peu. Je crois 5 ou 6, voilà. Mais c'est très frustrant, on ne peut pas être au contact. En plus, en général, les hublots qui nous séparent du milieu ont cette forme sphérique qui éloigne encore plus, c'est optique, hein, les sujets qu'on essaie d'observer. Alors, je trouve ça très... en tout cas, moi qui ai la chance parfois d'y aller physiquement, je trouve ça très... très frustrant, en fait. Voilà.
Bon. Ce que vous faites, Laurent Balesta.
Il faudrait qu'il y ait René en face pour se défendre de l'intérêt aussi d'y aller en sous-marin, et surtout sur les dorsales à 3000 mètres.
Parce qu'en effet, José Sarrazin qui, elle, José explore, pas de problème, José Sarrazin qui explore en effet ses profondeurs par des sous-marins, et peut-être que nous aurons la chance, je l'espère, de pouvoir en discuter avec elle. Mais vous faites régulièrement beaucoup de plongées à 120 mètres de profondeur. Combien de temps durent ces plongées?
Alors, la descente, elle, est la plus rapide possible. C'est même c'est presque un jeu entre nous dans l'équipe. Hein. C'est le premier en bas, quoi. Hein. Parce que la descente, elle, ne demande que une souplesse des oreilles pour passer, pour s'équilibrer, et une certaine vitesse de nage. Voilà. Il n'y a pas d'autres contraintes à la descente. Donc, à 120 mètres, on y est en... Des fois, en moins d'une minute, quand on nage très très vite, même quand on est entraîné par notre propulseur électrique. Donc ça peut aller très vite, la descente. Ensuite, une fois au fond, le temps se compte en minutes, hélas. En tout cas, en plongée traditionnelle. Parce que à 120 mètres de fond, chaque 5 minutes environ, c'est quasiment une heure de remontée qui va s'induire. Et par exemple, les plongées, les plus récentes, au Cap Corse, par exemple, on est descendu sur un site jusqu'à 132 mètres. On est resté presque 40 minutes au fond et ça nous a coûté 6 heures de remontée. Voilà. Donc, c'est à la fois 40 minutes pour nous qui connaissons le privilège de ces minutes, c'est beaucoup. Mais si vous dites ça à un botaniste qui passe des journées en forêt, il va trouver ça dérisoire. Hein. Enfin, voilà. Et surtout que le prix à payer derrière, ben, c'est 6 heures de lente remontée dans le bleu, dans le désert bleu, dans la haute mer, où il n'y a pas grand-chose à faire, où il n'y a en vérité rien à faire, sinon patienter en respectant les profondeurs jusqu'à pouvoir sortir sain et sauf.
Laurent Balesta, vous évoquez justement le prix à payer de certaines plongées. Je pense à celle que vous avez faite sous la banquise en 2015. Vous avez plongé à 120 mètres de profondeur dans les eaux froides de l'Antarctique dans le cadre de la mission Gombessa 3. L'objectif, c'était d'étudier la vie sous la banquise, en particulier celle des manchots empereurs. Ça fait partie des plongées les plus profondes qui n'aient jamais été faites en Antarctique. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter les conditions extrêmes que ça représente et puis les difficultés de ces plongées-là?
Au départ, c'est l'invitation de Luc Jacquet, vous savez, le réalisateur du film La Marche de l'Empereur, qui s'était promis de retourner voir ses manchots 10 ans plus tard. Alors, il a tenu promesse, puisque 2005, c'était La Marche de l'Empereur, et 2015, c'était notre voyage. Et il a eu envie que de mettre en lumière les émotions qu'on vit à rencontrer ces animaux et cet univers-là. Et donc, il lui fallait, cette fois-ci, des personnages humains devant la caméra. Alors, il a eu la gentillesse de demander à Vincent Munier, le photographe bien connu des régions extrêmes, d'arpenter la glace, et moi de le faire sous la glace avec mon équipe. Alors effectivement, moi il y avait l'exercice imposé, c'est comme en patinage artistique, figure imposée, c'était les manchots, leur mise à l'eau, le premier bain des bémés manchots, qui nous a donné beaucoup de fil à retordre, parce qu'il faut attendre des heures et des heures dans l'eau glacée avant qu'ils veuillent bien se décider à plonger pour la première fois. Et puis, il y avait l'exercice libre qui, moi, m'intéressait plus. C'était faire des plongées profondes pour aller voir ces écosystèmes très profonds qui sont dignes en biodiversité, en quantité d'espèces, qui sont dignes des récifs coralliens. Et ça, c'est merveilleux. À tous les points de vue, d'ailleurs. D'abord en quantité, rien que dans la Terre Adélie, hein, la zone française gérée par l'Institut polaire français et les terres australes et antarctiques françaises, il y a là plus de 9000 espèces qui ont été décrites. Alors que sur la glace, juste au-dessus, c'est moins de 10 espèces. C'est le contraste de vie le plus impressionnant qui soit. C'est un contraste en termes de couleurs aussi. On est dans le continent monochrome par excellence. Il y a zéro couleur quand on est sur la Terre. C'est des nuances de bleu et de blanc, quoi. Et quand on passe à grande profondeur, je dirais au-delà de 50 mètres, on est dans des univers multicolores par les animaux eux-mêmes d'abord, qui arborent toutes les couleurs. Et puis aussi même la glace qui sous l'eau se colore, parce que en particulier la glace pluriannuelle, c'est-à-dire cette glace qui ne fond pas d'un été à l'autre, et qui se charge de bactéries, d'algues, et qui transforme la glace en sorbet de toutes les couleurs. C'est une expérience vraiment unique. Douloureuse, ça c'est sûr.
Oui, douloureuse, parce que l'eau... 1,8 degrés, donc on n'est pas loin du seuil de congélation de l'eau. Elle est salée, donc elle ne peut pas geler.
1,8, ouais. Si on passe à moins 1,9, l'eau se fiche. D'ailleurs, on y est allé très tôt dans la saison, et on était à une période charnière où on avait de temps en temps, on voyait à nouveau les cristaux se former sous l'eau en même temps qu'on progressait dans l'eau. D'ailleurs, des fois, le simple fait d'agiter l'eau avec notre main provoquait la réaction et on voyait les cristaux de glace se figer comme un sorbet. On était dans une sorbetière géante en temps réel. Et puis après, les semaines ont passé et puis il a suffi d'un dixième de degré de différence pour que ça se stabilise un peu. Mais oui, c'était... voilà, l'expression « valoir la peine » n'a jamais été aussi bien choisie que pour ces plongées-là.
Parce que vous aviez en effet 5 épaisseurs de sous-vêtements, plein de protections thermiques, certains chauffants électriques, et vous avez eu des séquelles du froid 7 mois après cette expédition, des orteils insensibles et des fourmis dans les mains.
Ouais, alors en vérité, même, c'était il y a bientôt... Ben, ça a été il y a 10 ans. Et j'ai encore des orteils qui sont pas terribles, en fait.
Alors, quelles ont été vos découvertes de cette vie aquatique ? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, on poursuit notre semaine sur les nouvelles explorations en compagnie de Laurent Balesta et de peut-être José Sarrazin qui nous rejoindra en cours d'émission, on ne sait pas. Alors aujourd'hui en tout cas ce deuxième épisode sur les écosystèmes inconnus des fonds marins, comment on les explore, on vient de parler de différentes expériences que vous avez vécues Laurent Balesta, de ces plongées à 120 mètres de profondeur. Hier on évoquait l'espace, on fait souvent cette analogie de la mer, de l'espace, du plongeur, de l'astronaute. Est-ce que vous trouvez que ces expériences sous la mer, elles sont antinomiques ou au contraire très proches du spatial ?
Bon, c'est toujours très flatteur pour nous quand on nous compare aux cosmonautes. Je reste lucide sur le niveau de sélection pour être cosmonaute et celui pour être plongeur. C'est pas tout à fait le... On passe pas par le même entonnoir de sélection. Mais n'empêche que il y a 3 ans de ça, Thomas Pesquet nous a fait le privilège de s'intéresser à notre aventure sous-marine, où en plus on s'approchait encore plus de leurs conditions puisqu'on était dans la station spatiale, donc on a vécu 28 jours à la pression de 120 mètres pour pouvoir faire des sorties sans la contrainte de la décompression. Et il s'est tellement intéressé à notre histoire qu'il a accepté un duplex entre lui qui était dans la station spatiale internationale et nous qui étions dans la station spatiale à 120 mètres de profondeur. Alors, je ne sais pas si on peut faire des parallèles. En tout cas, il y a au moins un cosmonaute qui était curieux de notre façon de faire.
En tout cas, dans cette curiosité, il y a quelque chose d'assez fascinant également dans votre parcours, puisque dès votre master en biologie marine et écologie, Laurent Balesta, vous faites des découvertes, pas n'importe lesquelles, la découverte d'une nouvelle espèce en 1997, le gobie d'Andromède, qui porte le nom justement, ce poisson noir, et qui porte ce nom de cette galaxie, parce que son pelage, n'importe quoi, parce que sa robe rappelle un ciel étoilé. C'est-à-dire que vous, dans vos immersions, vous faites régulièrement comme ça la découverte de nouvelles espèces.
Si on veut être précis, j'ai rarement découvert de nouvelles espèces, très rarement. Par contre, ce que je dis, c'est que à chacune de mes missions, je photographie des espèces qui ont été décrites dans le passé, mais dont on n'a aucune image de l'animal vivant et dans son milieu. Il faut savoir que 90% des espèces décrites, c'est-à-dire qui ont un nom et un prénom en latin et un échantillon quelque part dans un muséum, dans de l'alcool ou du formol, eh bien, c'est toujours des animaux qui ont été capturés par des techniques de pêche plus ou moins précises. Mais on a très peu d'images sur la proportion de la biodiversité marine de ces animaux dans leur milieu naturel. Voilà. Qu'est-ce qu'on saurait d'un éléphant, d'une girafe, si on les connaissait que sur une planche à disséquer ? Ben, c'est un peu le cas pour les animaux marins, bien souvent. Alors moi, mon plus grand plaisir, c'est souvent ça. Photographier des animaux dont on connaît le nom, il a été découvert une fois, mais on ne sait rien d'eux. Et tout à coup, je ramène une image de lui, et tout à coup, on connaît ses couleurs, on connaît comment il se déplace, dans quel univers il vit. Voilà, ça, c'est mon plus grand plaisir. Et ça, c'est presque systématique à chacune de nos missions, qu'elles soient proches ou lointaines.
Il y a un cliché qui vous a marqué particulièrement ?
Ben, beaucoup, évidemment, il y a eu ce gobie d'Andromède, hein, c'était un tout petit poisson, mais il était porteur d'un grand espoir que tout à coup, moi étudiant, je me disais, mais je peux vivre de peut-être, non seulement ma passion, ça j'en étais sûr, mais peut-être je peux vivre de ma passion si je suis capable de faire des découvertes. C'était une approche un peu naïve, comme si pour faire le métier, il fallait être capable de découvrir des choses, mais le chercheur, il cherche, on ne lui demande pas forcément de trouver. Voyez bon. Ça a été très encourageant. Voilà. Et puis, il y a eu d'autres choses. Évidemment, ça a été très important pour moi de réussir à étudier et photographier pour la première fois le sélacanthe dans son univers propre, cet animal mythique, hein, notre dernier ancêtre aquatique, hein, le descendant de notre dernier ancêtre aquatique. Donc ça, c'était une découverte majeure. Cet animal, c'est quand même il est considéré comme la plus grande découverte zoologique du XXe siècle, et personne n'avait réussi à le photographier en plongée dans son univers propre jusqu'à nos premières missions en 2010.
Mais c'est en effet un poisson préhistorique des profondeurs, et vous avez rapporté ce cliché. Comment s'est passée cette rencontre ?
Bah, c'était un moment un peu inespéré. Vraiment, c'est une espèce de rêve de gosse. Quand on s'intéresse aux animaux comme je le faisais petit, forcément, on entend parler de cet animal mythique redécouvert au milieu du XXe siècle, et on entend toute l'histoire humaine des gens qui se sont passionnés pour lui, qui ont consacré leur vie entière. Parfois même, certains l'ont perdu dans la quête de cet animal inaccessible. Et donc, c'est devenu comme ça un truc qui revient régulièrement dans les études. Et puis, c'est devenu aussi un fantasme de plongeur. Et puis, à un moment donné, tout un concours de circonstances a fait que c'est devenu un vrai projet. Et que les techniques de plongée évoluant, on a été au bon moment, au bon endroit. Et on a eu cette chance. Ça aurait pu arriver à d'autres. Hein. On n'est pas des super-héros, ou on n'est pas des athlètes de haut niveau et des capacités particulières. Mais on était au bon endroit, au bon moment, avec la bonne curiosité. Et on a réussi à l'approcher. C'était en Afrique du Sud, 120 mètres de fond. C'est un souvenir inoubliable, ce face-à-face avec une légende vivante. Ses yeux brillent dans l'obscurité. C'est un souvenir que j'espère revivre d'ailleurs avant la fin de ma carrière.
Alors, Laurent Balesta, vous êtes la photographie sous-marine, c'est le support de tous vos projets. Vous avez
oui,
d'ailleurs
c'est
reçu
le moteur secret de toutes mes recherches, en vérité.
Vous avez reçu, quand même, il faut le dire, le plongeur d'or au Festival mondial de l'image sous-marine d'Antibes. Mais parmi vos équipements de plongée, justement pour l'exploration en eau profonde, sur quoi pouvez-vous vous appuyer ? Vous évoquez justement l'évolution des techniques de plongée.
Oui, d'abord, la première évolution, ça a été de En 99, j'ai été un des tout premiers en France à utiliser un scaphandre recycleur circuit fermé à gestion électronique de mélange.
Wow.
Ça veut dire juste une machine qui, au lieu d'une bouteille traditionnelle qui, à chaque expiration, ben, gaspille le gaz, et c'est la colonne de bulles qu'on voit au-dessus d'un plongeur traditionnel, bien là, le gaz est réaspiré dans la machine, recyclé, nettoyé, réenrichi en oxygène, et il tourne en boucle, le principe du recyclage, en fait. Et ça nous offre des autonomies extrêmement plus longue, ça nous offre de pouvoir gérer des mélanges de gaz différents qui permettent d'aller à des profondeurs bien plus importantes, de faire des décompressions un peu accélérées. Et ça, ça a ouvert un espace énorme qui nous a permis d'être plus discrets dans l'eau parce qu'on ne fait pas de bulles. Donc forcément, on est quand même beaucoup plus silencieux. Et puis surtout, le vrai secret, c'est qu'on peut rester plus longtemps. Et là, voilà, il n'y a pas de secret. Quand on reste 5 heures au lieu de 5 minutes, ben, forcément, on voit plus de choses.
Rester plus longtemps, c'est quelque chose que vous avez également réussi à faire grâce à un module pressurisé. C'était en 2019 pour l'exploration de la zone crépusculaire en Méditerranée. Laurent Balesta, est-ce que vous pouvez nous décrire justement ce module qui, ouais, qui fait à peu près, je crois, 100 mètres cubes, hein, mais qui permet de descendre à 100 mètres de profondeur et longtemps. Et
c'est le paradoxe, c'est une petite prison d'acier, mais pour une liberté à la fin sans équivalent, quoi. Alors on n'a rien inventé, ça il faut quand même le reconnaître. C'est l'histoire d'un grand détournement, cette histoire. Moi j'ai toujours été jaloux, voire je trouvais ça révoltant que les techniques de plongée les plus avancées soient réservées à la plongée industrielle, aux plateformes d'exploitation pétrolière ou gazifère en haute mer, et pas à l'exploration scientifique. Et en l'occurrence, le principe, c'est, au départ, il est très simple. Vous avez compris tout à l'heure, quand j'ai expliqué les contraintes de la plongée, la difficulté, c'est pas de descendre, c'est de remonter. C'est ça qui est contraignant. Donc, si le problème, c'est la remontée, ben, la solution, ben, c'est de pas remonter. Ou alors, c'est plus malin, de faire croire au corps qu'on ne remonte pas. C'est-à-dire le maintenir sous pression tout le temps, même entre les plongées. Et donc, le corps, lui, va penser qu'il est sur une longue plongée qui va durer une semaine, deux semaines. Mais dans cette durée de mission, en l'occurrence, nous, ça a été 28 jours, eh bien, on passait du temps à 120 mètres de fond, réellement, à explorer dans l'eau, à faire nos observations. Et ensuite, au lieu de remonter et d'avoir des décompressions interminables, eh bien, on rejoint une petite tourelle, une sorte d'ascenseur qui est pressurisé, qui est à la pression du fond. Il remonte en surface, mais la pression dans l'ascenseur reste la même. On est connecté à un module de vie où il y a des lits pour dormir, une petite table pour manger. Alors c'est minuscule, hein, c'est ça, qui fait 5 mètres carrés pour 4 personnes, c'est vraiment tout petit. Mais on est toujours à la même pression. Et donc, en fait, il n'y a pas besoin de décompresser puisqu'on reste à la même pression. Et là, les journées et les plongées s'enchaînent tant qu'on n'est pas fatigué, tant qu'on n'a pas froid, on n'a plus aucune limite, en fait. Et la décompression ne va se faire qu'une seule fois à la fin de la mission. Alors elle est longue, elle dure 4 jours. Mais avant ces 4 jours de décompression, on peut rester aussi longtemps qu'on le veut. Si on veut rester 4 mois ou 4 ans, ce sera quand même que 4 jours à la fin. Alors nous, on a fait 28 jours. Voilà. Et ça, c'était une expérience inoubliable. Hein, inoubliable. Le temps qu'on a passé. Je veux dire, en 28 jours, on a fait le calcul. J'ai passé en dessous de 100 mètres plus de temps que dans les 10 années de plongée profonde qui avaient précédé.
À l'intérieur du module, vous respiriez un mélange gazeux, c'est ça, à base d'hélium?
Oui, à base d'hélium, ce qui nous permet de nous affranchir de l'ivresse des profondeurs et de faciliter l'effort respiratoire qui, sous haute pression, peut fatiguer les muscles des poumons, les muscles intercostaux.
Ça, tout ça, l'ivresse des profondeurs, les convulsions épileptiques, ce sont les principaux dangers de la plongée profonde. On va continuer de raconter justement ces aventures et ces expéditions-là, mais dans quelques instants. Water Love de Smoke City en direct sur France Culture, car on explore aujourd'hui les tréfonds de l'océan avec un scientifique explorateur, un plongeur, photographe, biologiste marin, avec Laurent Balesta. On vient de parler ensemble des contraintes et des défis que représente la plongée. Laurent Balesta, en décembre prochain, en Polynésie, dans les îles du Tuamotu, vous faites une mission, le projet Tamataroa. C'est une étude sur le requin marteau. C'est une étude qui a démarré il y a plus de 4 ans. Alors, là aussi, je veux bien que vous nous racontiez comment on étudie, comment on se met en condition pour étudier de tels animaux.
Oui, le grand requin marteau, pour être précis. Plusieurs espèces, et là, c'est vraiment le plus grand de sa famille. C'est un solitaire, très puissant. C'est un peu le big boss dans les Tuamotu. Il n'a pas de prédateur au-dessus de lui. Et pour autant, c'est le paradoxe de cet animal, il est extrêmement farouche, il est extrêmement furtif. Moi, je dirais même paranoïaque. Et donc, il est très difficile à approcher. Et je dois même avouer que je ne voulais pas faire cette mission. Je pensais que c'était une mission un peu impossible et qu'on n'aurait pas assez de contacts, qu'on n'aurait pas assez de données, qu'on le croiserait pas assez, qu'il serait avare de ses comportements et qu'on reviendrait un peu bredouille. Mais je n'ai pas pu, je me voyais mal empêcher les jeunes de mon équipe, morts de faim d'aventure scientifique, d'essayer quand même sur leur temps libre. Et c'est ainsi qu'ils ont rejoint là-bas une association locale, une association de moniteurs de plongée, de passionnés, de volontaires en tout cas, l'association Mokaran. Et eux avaient commencé un listing comme ça d'espèces. Ils avaient inventorié, catalogué plein d'individus, beaucoup plus qu'on ne croyait. Et on a pris la suite avec eux pour essayer de mettre des protocoles scientifiques beaucoup plus avancés, essayer de marquer, de comprendre leur migration en posant des balises sur leur dos, en faisant des études plus poussées techniquement. Et ça révèle au cours de ces 4 années, de la 5e année qui arrive, des résultats vraiment étonnants.
Justement, quels sont les protocoles scientifiques et les avancées dans ces protocoles-là?
Alors, le plus dur, c'était d'être capable de les approcher. Les meilleurs guides de plongée de Polynésie que je connais, certains sont de fins naturalistes, ils ont une grande expérience. Et en toute bienveillance, m'avait dit Laurent, faut pas rêver. Si tu mets pas un appât, si tu les attires pas avec du nourrissage, ils viendront pas. Ils sont trop farouches, trop furtifs, ils viendront pas. Et moi, c'était ma ligne rouge. On a jamais étudié, dans mon équipe, on n'a jamais étudié les requins en les nourrissant, en les appâtant. C'est que des comportements naturels qu'on a toujours étudiés pendant 5 années d'ailleurs. On avait mené un projet au préalable. Et j'ai dit non, nous on fera pas comme ça. Et donc c'est pour ça que c'était difficile. Mais on a eu la chance par hasard, de trouver une astuce en utilisant des rayons laser qui nous servaient initialement à mesurer la taille des animaux. On s'est aperçu que de temps en temps, c'est pas aussi efficace qu'une tête de thon sanguinolente, hein. Mais ça fonctionne de temps en temps. Ces rayons laser attirent les grands requins marteaux. Et donc, tout à coup, cet animal très furtif, massif, se tourne vers vous. De loin, on voit sa silhouette. Et tout à coup, il arrive. C'est même les premières fois, c'est très impressionnant. Et puis, quand il arrive à quelques mètres du plongeur, hop, il fait demi-tour, volte-face, et il repart. Voilà. Et ça nous offre des toutes petites fenêtres de quelques secondes pendant lequel il va falloir faire le maximum de prise de données, c'est-à-dire l'identifier, le mesurer, faire un prélèvement pour faire de la génétique, et le plus important, lui poser une balise sur le dos pour pouvoir suivre ses déplacements.
C'est une étude en effet qui continuera au cours de l'année 2026. Et là, nous avons la chance d'être rejoints par José Sarrazin. Vous nous entendez, José Sarrazin ?
Oui, je vous entends très bien.
Bonjour, bienvenue à bord de l'émission.
Bonjour. Désolée, ça a été compliqué.
Non, mais vous êtes tout excusé. Vous êtes actuellement sur la Talente. C'est ça qui porte le sous-marin habité, le Nautile, le mythique qui a exploré l'épave du Titanic.
Exactement, il est au fond en ce moment-là.
D'accord. Bien, écoutez, merci d'être avec nous. On vient de parler de toutes les pressions qui pèsent sur un plongeur qui plonge sans sous-marin. Vous explorez ces grands fonds, José Sarrazin, justement, au moyen de différents types de sous-marins. Quels sont justement ces engins qui vous permettent d'aller encore plus loin que les plongeurs ?
Eh bien, on a différents engins sous-marins qui nous permettent d'accéder aux grands fonds. D'abord, on a les sous-marins habités comme le Nautile là qui est à bord du bateau en ce moment. Donc des sous-marins qui plongent jusqu'à 6000 mètres de profondeur, dans lequel ils sont embarqués deux pilotes et un scientifique. Et le sous-marin part à la journée et revient le soir avec sa panoplie d'échantillons. Ces sous-marins, ils sont complètement déconnectés du bateau, donc ils partent en autonome du bateau et ils passent la journée au fond pour collecter des échantillons. On a différents moyens de collecte, on a des bras manipulateurs, on a un aspirateur à faune, on a des moyens de prélever des fluides chauds et des fluides froids, de faire des analyses, bref, toutes sortes de mesures. Et ensuite, on a aussi ce qu'on appelle les ROV, donc les Remotely Operated Vehicles. Ce sont des engins qui sont téléguidés à partir de la surface. C'est vraiment des robots. Il n'y a personne à bord. La contrainte, c'est que ces sous-marins sont reliés au bateau par une espèce de cordon ombilical qui nous transmet les images en direct. L'avantage de ces engins, c'est qu'ils peuvent plonger très longtemps au fond par rapport aux sous-marins habités où on est limité à une journée. Là, un ROV peut partir pour une centaine d'heures sur le fond et échantillonner pendant toute cette période-là. Par contre, ils n'ont pas la vision 3D qu'on a sur un sous-marin habité. Donc, c'est vraiment des engins complémentaires. Et ensuite, il y a aussi... Pardon ?
Ah non, je vous laisse poursuivre.
Non, sinon, les derniers en date, ce sont ce qu'on appelle les AUV, les Autonomous Underwater Vehicles. Ce sont aussi des robots, mais qui, eux, sont plutôt axés pour faire de la cartographie très fine des grands fonds marins. Et puis, on peut mettre différents capteurs qui permettent d'avoir des mesures physico-chimiques dans la colonne d'eau, mais ils n'ont pas la capacité de prendre des échantillons. Donc, vraiment, trois engins différents. Qui ont des capacités différentes.
José Sarrazin, vous étudiez donc les animaux qui vivent dans les grandes profondeurs et vous avez eu accès justement à cette vision 3D puisque vous avez fait à peu près une dizaine de plongées en sous-marin. Votre plongée la plus profonde, c'était en 2023, 3600 mètres de fond. Les sous-marins scientifiques habités peuvent descendre jusqu'à 6000, 7000 mètres. Alors vous, quelle a été justement cette expérience des grands fonds extrêmes ?
Eh bien, moi, j'ai surtout plongé au niveau des sources hydrothermales, parce que c'est mon domaine de prédilection. J'ai fait ma première plongée dans les années 90, pendant ma thèse. Donc, ça a été la première fois que j'ai plongé. Évidemment, ça a été un grand étonnement, parce que j'avais travaillé pendant des années sur des images ROV, et tout à coup, je découvrais ce milieu que j'étudiais en images 2D, en surface, dans la profondeur. Donc, se rendre compte que voilà, ces édifices de 15 mètres de haut, quand on monte le long des parois, on se rend vraiment compte de la complexité, du relief, ce qu'on n'a pas du tout avec l'image 2D. De se dire qu'on est à proximité de fumeurs qui font 350-400 degrés Celsius et de voir toute cette faune luxuriante, vraiment, c'est une autre expérience. Quand on le vit vraiment avec ses tripes par rapport à des images comme ça sur nos écrans.
Vous complétez un peu ce que disait Laurent Balesta sur l'importance d'être immergé. Vous êtes donc spécialiste, vous travaillez sur les sources chaudes et sources froides. Ce sont les deux plus importants écosystèmes chimio-synthétiques des grands fonds. Ils sont donc basés sur la chimiosynthèse. Est-ce que vous pouvez nous décrire justement quel est ce processus ?
Alors, c'est un processus par lequel des micro-organismes, donc des bactéries et des archées, vont utiliser l'énergie chimique des fluides, que ce soit les fluides chauds ou les fluides froids. Donc, les composés chimiques, ça va être surtout être le méthane, le sulfure, aussi l'hydrogène et le fer. Ils vont utiliser cette énergie chimique pour former de la matière organique. Et c'est ces micro-organismes, en fait, qui vont être à la base de la chaîne alimentaire. Donc, contrairement aux autres écosystèmes des grands fonds, qui, eux, vont dépendre de la neige marine, donc des produits issus de la photosynthèse pour s'alimenter, eh bien, ceux des écosystèmes chimio-synthétiques, ils vont vraiment s'alimenter grâce aux micro-organismes de leur environnement. Donc, c'est une production locale, en fait, de nourriture.
Quelles sont les espèces emblématiques sur ces sites hydrothermaux?
Ah oui, on va dire que les espèces stars, c'est surtout le grand ver Riftia pakiptila qu'on n'a pas dans l'Atlantique. Donc, c'est un ver qui est assez particulier parce qu'il peut atteindre 2 mètres de hauteur. Il vit en espèce de buisson de centaines d'individus qui vont ériger leur branchies rouges dans le fluide hydrothermal. Donc, c'est très, très beau au fond. C'est magnifique. Et ce ver, il a une particularité, c'est qu'il n'a ni bouche, ni anus, ni système digestif. Il va vraiment dépendre d'un sac de bactéries qu'il a à l'intérieur de son corps pour lui fournir sa nourriture. Donc ça, c'est une des espèces vraiment, vraiment emblématiques. Après, on a aussi le kiwa hirsuta, qui est une espèce de petit crustacé qui a sur ses chylipèdes, donc sur ses pattes, des grands filaments bactériens. Donc ça en fait un espèce d'être poilu qui a pas mal fasciné lors de sa découverte dans les années 2000. Et nous, ici, on a quand même des moulières, des grandes moules qui peuvent avoir des tailles assez exceptionnelles. On a des crevettes, on a la chimère aussi, qui est une espèce de poisson cartilagineux là, qui vient nous visiter régulièrement, qui a l'air un peu fantomatique et qui a l'air un peu Frankenstein parce qu'il est tout suturé. Donc voilà, c'est un peu le paysage qu'on a ici.
C'est un paysage riche en images. Merci, merci de nous régaler. On estime, je crois, qu'il y a à peu près 1 et 10 millions d'espèces à découvrir. À quel point on sous-estime peut-être à quel point ces zones sont vivantes et riches justement en vie?
Eh ben oui, ça c'est les études d'un grand programme qui s'appelle Census of Marine Life qui avait estimé en 2010 que avec le taux de découverte actuel, on aurait jusqu'à 10 millions d'espèces à découvrir. Vous l'avez rappelé, j'ai entendu en début d'émission qu'on avait exploré visuellement que 0,001% des fonds marins. Et ça veut dire visuellement, ça veut dire que l'échantillonnage n'est pas encore fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore répertorié la faune, puisqu'il y a la faune visible sur image, mais il y a aussi celle qu'on va retrouver dans les sédiments, donc dans l'interface sédimentaire. Et là, c'est des tout petits organismes. Et nous, dans nos échantillons, il peut arriver qu'on a de 50 à 90% d'espèces totalement inconnues.
Et alors, par rapport aux espèces justement inconnues, vous avez vous aussi fait des découvertes, alors peut-être pas d'espèces, mais des découvertes justement dans ces grands fonds. Parmi vos travaux, est-ce qu'il y en a une découverte qui vous a particulièrement marqué au cours de votre carrière?
Oui, c'est une découverte qui est encore en cours d'exploration. En fait, on a commencé à s'intéresser au rythme des marées et voir, parce qu'on voyait que le rythme des marées au niveau de la température, au niveau de la pression sur les grands fonds, il y avait des signaux de marée. Et on s'est dit, est-ce que la faune, elle aussi, est capable d'enregistrer ou de répondre à ces signaux de marée? Donc, on a commencé avec l'imagerie vidéo à regarder, par exemple, l'ouverture, la fermeture des coquilles de moules, l'entrée et sortie des tubes chez les vers pour voir s'il y avait une rythmicité. Et on a observé que, justement, il y avait évidemment une correspondance avec la marée. Mais on avait du mal à convaincre avec nos images. Donc, on a fait appel à une spécialiste de la chronobiologie. Et on a développé un protocole qui nous a permis d'échantillonner des moules ici, sur le champ Lucky Strike. Donc, on a échantillonné des moules en grande profondeur et elle a étudié les gènes de cette moule pour montrer qu'il y avait des gènes qui répondaient vraiment au rythme des marées et dans une moindre mesure au rythme jour-nuit. C'est-à-dire que ces animaux ont la capacité, en fait, de répondre à des rythmes de marée. Donc c'est là, fou, même, on poursuit même à, l'étude.
Ouais. Même à 1700 mètres de profondeur.
Ouais. Et même jusqu'à 3200 mètres, on a observé ce rythme chez les animaux. Ouais.
Oui, alors qu'on sait que ce sont des environnements qui sont plongés dans l'obscurité. Vous étudiez également la résilience de ces moules des grands fonds.
Oui, ça c'est une étude qu'on a commencé en 2017. En fait, on voulait savoir si jamais il y avait un impact dans les grands fonds, quel temps pourraient prendre ces communautés à récupérer leur état initial, en fait. Et donc, on a mené une expérimentation en déployant des petits carrés, hein, très petits, de 30 cm à 37 mètres, sur lesquels on a enlevé toute la faune. Et puis là, depuis 8 ans, on suit la récupération de cette faune. Et à notre grand étonnement, nous, on pensait, comme les communautés animales sont à côté, quoi, que soit il y aurait de la migration, soit il y aurait des larves qui viendraient s'installer sur ces zones dénudées. Et à notre grand étonnement, la récupération se fait très, très lentement. Ce qui porterait à dire qu'en fait, la capacité de résilience de ces communautés qu'on a dit longtemps être très dynamique n'est peut-être pas aussi grande que prévu et que ça pourrait prendre des dizaines, voire des centaines d'années pour que ces communautés puissent récupérer.
Ouais, ce sont des données évidemment importantes quand on connaît les impacts des activités humaines justement sur les grands fonds. L'exploration ne peut pas se faire sans penser à la protection de ces fonds. On poursuit avec le reportage du jour. Faire découvrir la beauté et la richesse de la vie marine tout en la protégeant, c'est aussi le rôle des aquariums, loin des écosystèmes naturels. On va y nager comme un poisson dans l'eau avec vous, Céline Lozen. Bonjour.
Bonjour, Natacha.
Vous êtes allée à l'aquarium tropical de la Porte Dorée pour comprendre les missions de conservation de cette institution dans les bassins et les espaces de recherche.
Et oui, avec 85 bassins et 2 terrariums, l'aquarium tropical nous invite à explorer une biodiversité marine au cœur d'écosystèmes qui ont été réaménagés, hein, des sources, des récifs, des grottes et même des cours d'eau où évoluent plus de 4000 pensionnaires. Le directeur Charles-Édouard Fusari, également biologiste et capacitaire, nous amène jusque dans les coulisses, en zone de quarantaine, où des scientifiques mènent des études. Car au-delà de la contemplation, l'aquarium s'est doté de missions d'éducation, de recherche, de conservation, en lien avec des programmes scientifiques.
Alors en face de moi, j'ai ce qu'on appelle un aquaterrarium. On voit le bassin, mais on voit aussi au-dessus de l'eau. Ce qui est assez intéressant, puisqu'on a vraiment l'impression de se balader au bord d'une rivière. On a une berge qui est plantée avec des fougères, avec pas mal de plantes tropicales. Et puis sous l'eau, on a, là ce qu'on voit, c'est une espèce du bassin amazonien qui s'appelle les oscars, avec un lit, le lit de la rivière là fait de sable et un enchevêtrement de branches et de rochers. Quoi.
Qu'est-ce qu'il est en train de manger cet individu-là ?
Là, on a un piranha herbivore omnivore hein, qui est en train de manger un morceau de crevette. Voilà. Et je pense que les aquariologistes qui s'occupent des animaux ont fait le nourrissage il n'y a pas très longtemps.
Alors vous êtes capacitaire, également aquariobiologiste et biologiste de formation.
Ouais.
Et vous participez aussi au nourrissage de temps à autre ?
Malheureusement, plus maintenant. Ouais. De formation biologiste, ensuite j'ai été aquariologiste, soigneur animalier pendant de nombreuses années où je me suis occupé des aquariums, et maintenant capacitaire, responsable donc de la collection et directeur de l'aquarium. Donc un rôle plutôt administratif, donc j'ai plus trop les mains dans l'eau, mais bon, dès que j'ai l'occasion pour filer un coup de main, j'essaie de participer.
J'adore les
rues. C'est pas une rue
de
léopard ?
Elle est trop belle. J'adore les rues, c'est une toute
belle. Moi aussi. C'est trop belle. C'est de l'eau douce ou de l'eau salée ?
Je sais pas.
J'ai lu qu'il y avait aussi des efforts mis sur la reconstitution de récifs coralliens. On sait qu'aujourd'hui, les coraux, évidemment, au-delà de la barrière de corail, souffrent de blanchiment, l'acidification, la pollution. Comment ici, on participe à la fois à la recherche et aussi à la conservation ?
Alors, quand on veut reproduire les coraux, ce qu'on fait, c'est du bouturage. Donc, on crée des clones, on casse une branche, on le remet dans des conditions adéquates et ça donne naissance à une nouvelle colonie. Mais ces 10 dernières années, on a réussi à maîtriser maintenant la reproduction sexuée des coraux. Donc, il y a eu d'énormes efforts qui ont été faits pour essayer de trouver la bonne méthode en reconstituant les variations saisonnières, le cycle lunaire, etc. pour faire pondre les coraux comme ils pondent dans la nature et se reproduire de manière sexuée. Et donc ça, c'est une avancée assez majeure, en tout cas au niveau de la recherche sur les conditions en captivité, mais qui peut aussi aider sur de la restauration de récifs. Ça veut dire qu'à la place de faire un récif corallien fait de fragments et donc de clones. On va pouvoir faire un récif corallien avec une diversité génétique beaucoup plus importante et donc du coup beaucoup plus résilient aux événements climatiques, par exemple. Mais aussi la production de larves issues de la reproduction sexuée en captivité constitue aussi un réservoir biologique assez important pour la recherche et du matériel biologique qui peut être très intéressant sur la recherche fondamentale et pour en apprendre plus et avancer sur les connaissances qu'on a sur les coraux. Ouais.
Un mot peut-être sur ce qui est le bassin en contrebas, là, enfin le grand cercle creusé avec un relief géologique presque très impressionnant.
C'est la fameuse fosse aux crocodiliens de l'aquarium, avec le fameux rocher de la Prade, l'architecte du bâtiment, et dans lequel se trouve un alligator albinos, donc un alligator du Mississippi albinos. Là, on va se rendre dans ce que nous, on appelle la quarantaine, mais en fait, qui a plusieurs fonctions.
Pour une porte dérobée entre deux bassins.
Voilà. Allez-y. Donc là, en fait, on est dans les coulisses de l'aquarium. Alors nous, on a l'habitude des coulisses, mais pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quelque chose d'assez fantastique, puisqu'on a un enchevêtrement de tuyaux, de bassins, de bruits d'eau, de bulles, etc.
Donc c'est des laboratoires.
En fait. Ça ressemble un petit peu à des laboratoires, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez magique en fait sur les coulisses de l'aquarium, de manière générale. Donc on est dans la quarantaine, et comme je le disais, ça a plusieurs fonctions. Une fonction de quarantaine, c'est-à-dire quand on reçoit des nouveaux pensionnaires, pour s'assurer qu'ils ne véhiculent pas de maladies ou autres, ils vont passer un certain temps en quarantaine avant de les passer en présentation. C'est aussi un lieu où si on a des animaux malades ou blessés issus, qui sont en présentation publique, ils peuvent venir ici et on peut appliquer des traitements en lien avec notre vétérinaire. Mais c'est aussi un lieu de recherche. On peut mettre en place un dispositif expérimental sur des partenariats avec des laboratoires de recherche parce qu'on a cette compétence de pouvoir maintenir en vie des animaux vivants, ce que certains labos n'ont pas. Et donc ils viennent.
Quelle espèce par exemple ?
Alors par exemple. Là par exemple, vous avez. Ça c'est un. Alors, on voit les petites sèches. Alors l'expérience est finie maintenant, mais on a toutes les petites sèches là qui sont à l'intérieur, qui ont éclos. On a quelques-unes là qui sont agglutinées les unes aux autres.
Ouais.
Alors ce sont des passoires dans lesquelles on a mis des sèches. C'était des œufs de sèches qui ont éclos en fait ici il y a quelques jours. Au sein de l'expérimentation.
On va les laisser tranquilles.
Alors. Voilà. Et donc ce système que vous avez derrière vous, là, qui est utilisé pour les sèches maintenant, en fait, ce système est spécialement conçu pour recréer ces fameuses conditions environnementales pour faire la reproduction sexuée des coraux. Donc ça fait partie des axes de développement dans les missions de recherche à l'aquarium, c'est d'essayer de se doter de cet outil-là pour pouvoir faire de la reproduction sexuée de coraux, afin ensuite de mettre à disposition nos compétences pour de la restauration de récifs, ou de produire du matériel biologique pour la recherche. Là, on est sur un ensemble d'espèces. Alors là, c'est de l'eau douce, mais c'est des espèces du Mexique. Ici, on a une espèce qui est éteinte à l'état sauvage, en fait. C'est Cyprinodon alvarezi. Donc, c'est une population assurance qui est coordonnée, en tout cas, par un programme de coordination au sein de l'Association européenne des eaux et des aquariums.
Elle n'existe plus à l'état sauvage.
Elle est éteinte à l'état sauvage, elle n'existe plus. Elle est présente uniquement en fait en captivité, malheureusement et heureusement.
Ouais, c'est incroyable de se dire que là, ce qu'on a sous les yeux, c'est le dernier.
Alors, c'est vrai que je pense qu'il y a une certaine émotion à se trouver en face d'une espèce qui est éteinte et qui pourrait même s'éteindre demain si les diverses institutions qui la maintiennent en captivité avaient des problèmes techniques ou autres. Donc, on l'a vu dans le passé. Donc les choses maintenant vont dans le bon sens, je l'espère.
Merci Céline Lozen. Nos reportages loin du studio sont à retrouver dans notre collection La Science au Labo sur votre appli préférée, l'appli Radio France,
bien sûr.
Laurent Balesta, votre réaction à l'écoute de ce reportage ?
C'est des initiatives qui sont intéressantes, bien sûr, et qui sont porteuses d'espoir et qui nourrissent les optimistes, l'optimisme de ceux qui en ont besoin. Mais bon, voilà, c'est quand même tout ça c'est des petites gouttes, quoi. C'est des petites actions très ponctuelles. Le bouturage des coraux face à l'acidification des océans, face à tout ça, ça va être. C'est des impacts qui sont tellement importants. Donc, même si on arrive à créer un peu plus de diversité génétique en améliorant la reproduction sexuée, on le fait quand même sur des tailles de population qui sont mineures à l'échelle, par exemple, de la grande barrière de corail d'Australie. Vous imaginez quand la grande barrière de corail se reproduit ou se reproduisait, parce qu'elle est quand même bien morte aujourd'hui, sur une grande partie. Quand on fait un laboratoire ou dans des bassins comme ça, reproduire un reco, ça crée finalement peu de quantité. Voilà. Donc c'est très bien, il faut l'encourager, mais il ne faut pas baser tous nos espoirs là-dessus et surtout pas se dire bah, c'est bon, il n'y a plus de problème. Vous voyez, ils ont trouvé des solutions techniques. De toute façon, ça, je pense que c'est très général et ça va au-delà de l'océan et de l'environnement marin. C'est croire que l'on va résoudre tous nos problèmes par la technologie et notre génie technologique, ça, c'est une utopie absolue. On résoudra nos problèmes par un changement d'état d'esprit, un changement de philosophie de vie. Il n'y a que ça qui peut, parce qu'il arrive un moment où c'est notre espèce de surpopulation humaine qui fait que, quoi que l'on fasse, on a trop d'impact. Donc la technologie, elle se base aussi sur de la ressource pour la mettre en place. Et voilà, c'est ça la limite de ces exercices. C'est très bien, il faut encourager, mais on ne peut pas penser que ça va tout solutionner.
Je rebondis et je me tourne vers José Sarrazin, puisque vous évoquez les impacts. Quels sont-ils justement? Quels sont ceux qu'on observe dans les grands fonds, même à de grandes profondeurs?
Il y a bien sûr les impacts de la pollution et puis aussi des changements climatiques, mais dans une moindre mesure. Le problème qu'on a dans les grands fonds, c'est qu'on a très peu de données temporelles, donc on ne sait pas trop comment varient ces écosystèmes de façon naturelle, donc c'est difficile d'en évaluer les impacts. Mais ce qui pointe aussi à l'horizon, ce sont les menaces liées à l'exploitation des ressources minérales des grands fonds qui ne sont pas commencées, en tout cas dans les zones internationales. Et c'est là-dessus que nous, on essaye de vraiment renseigner les décideurs pour qu'ils prennent les meilleures décisions possibles en ce qui concerne ces activités.
Oui, vous voulez dire que l'exploitation minière des ressources des grands fonds, José Sarrazin, on risque notamment de tout détruire avant même de l'avoir découvert?
Nous, ce qu'on dit, ce qu'on prône, c'est que pour l'instant, nos connaissances sont vraiment insuffisantes pour pouvoir renseigner des stratégies de conservation et de protection de ces écosystèmes, et que si on y va maintenant, on risque de menacer de façon irréversible ces écosystèmes dont on connaît même pas les espèces qui y vivent.
Laurent Balesta, vous souhaitiez réagir? Vous avez une minute à peu près rapidement pour conclure, puisque nous arrivons vers la fin de cette discussion.
Par exemple, cette histoire d'exploitation des grands fonds pour les métaux rares, etc., ça restera un point positif des résultats de ce qui sort de l'UNOC, du sommet des océans des Nations Unies à Nice au mois de juin dernier. Là, il y a eu une position claire de la plus grande partie des pays, un discours très clair du président Macron, pas d'exploitation des grands fonds, etc. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est vrai quand même qu'il y a au final quand même peu de... C'est une position qui est respectable, qui est facile à prendre parce qu'il n'y a pas d'enjeu encore. Et puis il n'y a pas de business plan. Donc autant l'arrêter tout de suite. Et ça, on peut se féliciter de ça.
Et mais puis, je pour tout comprendre, en effet, c'est moi qui vous arrête, Laurent Balesta, parce qu'on est arrivé à la toute fin de cette émission. Excusez-moi de vous interrompre un peu abruptement, mais pour nos auditeurs, pour tout comprendre à ces questions d'exploitation minière, nous avons consacré un podcast, justement, Exploitation minière, une erreur abyssale. Un petit mot pour vous dire, Laurent Balesta, que vous allez sortir un nouveau beau livre le 30 octobre, Loin du ciel, chez Andromède Collection, et José Sarrazin, votre ouvrage Atlas des Abysses aux éditions Artaud en 2024 est disponible en librairie ou en médiathèque. Aujourd'hui, vous le savez peut-être, Radio France est en grève, c'est un mouvement social contre la stratégie éditoriale et les réformes menées par la direction dans un contexte d'économie. Nous ne diffuserons donc pas la chronique avec Science du jour. Merci à vous deux, merci à vous pour votre écoute. Et merci, évidemment, à toute l'équipe de la Science CQFD, à la réalisation Delphine Caravec, à la technique Ruben Carmazine, et merci également ici Héros avec Mathieu Casanas, et bienvenue à Joseph Schlegel.